Dans le cadre de leur émission Les Chemins de l'Histoire, Daniel et Jean Fleury vous présentent une série de 5 émissions inspirées par l'actualité et qui s'intitulera « Protestantisme et laïcité ». Nous abordons le dernier chapitre de notre série sur la laïcité avec aujourd'hui le cheminement vers un État laïque, accompagné toujours par Éric Satie et ses Dents de travers.
Nous avons vu la dernière fois qu'en 1892, le Vatican avait finalement demandé aux catholiques français de se rallier à la République. En 1894, l'affaire Dreyfus remet tout en question. Or, parmi les Dreyfusards, on compte bon nombre de juifs et de protestants, donc Francis de Prensensé, ami de Jaurès, fils et petit-fils de pasteurs évangéliques, partisans de la séparation. En 1898, il fonde la Ligue des droits de l'homme pour l'établissement d'un contrat social laïque ainsi qu'une lutte pour la paix et une attention à tous les problèmes posés par la colonisation. Ferdinand Buisson lui succédera à la présidence en 1914.
Des débats hostiles au Concordat se répètent à la Chambre, tant sur les relations difficiles avec le Vatican que pour la laïcité. On profite du vote de la loi sur les associations de 1901 pour inclure les congrégations catholiques dans ce cadre et les obliger à autorisation, après contrôle et avis conforme du Conseil d'État. Rome proteste, mais s'incline.
Émile Combes chasse donc en 1902 les congrégations enseignantes non autorisées, fermant ainsi 150 écoles. En 1903, il entre en conflit diplomatique avec le nouveau pape Pie X. Dès juin, le pasteur Eugène Réveillot, député radical franc-maçon, obtient une commission présidée par Ferdinand Buisson pour un projet de séparation avec 33 parlementaires, dont Francis de Prensensé et Louis Méjean, directeur de l'administration des cultes, fils et frère de pasteur. Contrairement à la formule de Lamennais, une église libre dans un État libre, Buisson défend une église libre dans un État souverain. Et Henri Rochefort de dénoncer ces mesures anticléricales comme un complot protestant.
Un premier projet de séparation est concocté, dont le rapporteur sera le socialiste Aristide Briand, qui déclare « L'État laïque n'est pas anti-religieux, mais a-religieux ». Ce n'est pas un conflit entre croyants et athées, mais entre deux visions de société. Pourtant, en décembre 1904, face aux attaques catholiques virulentes, Combes présente un projet de séparation plus radical que la Commission refuse. Clémenceau estime que cela inféodrait une Église gallicane à l'État et votre abstraction d'État idéal est un État pape. Protestants et juifs s'y opposent aussi dans le siècle, non tant sur le principe que sur les modalités. Le pasteur de Nîmes, Louis Trial, délégué des églises réformées, et Charles Gide, professeur de droit à Paris, contestent la référence au département pour les églises consistoriales de 6 000 fidèles qui pénalisent les petites églises dispersées et ravivent le conflit entre tendances orthodoxes et libérales. Conseillé par Raoul Allier, professeur à la faculté de théologie protestante de Paris, membre influent des Églises libres, Briand va infléchir la loi dans un sens plus respectueux des institutions religieuses.
Combes démissionne en janvier 1905 et le nouveau projet est discuté à la Chambre à partir de mars avec de nombreux amendements. Les luthériens y restent majoritairement opposés, tandis que les baptistes s'en réjouissent, ainsi que les églises libres ou indépendantes qui rejoignent même les réformés dans une fédération protestante en octobre.
La loi de séparation de l'Église et de l'État, des Églises et de l'État, est votée par la Chambre le 3 juillet 1905 à 59% contre 10% pour la confiscation proposée par Édouard Vaillant et par le Sénat le 9 décembre à 64%. Elle abroge le Concordat sans le dire et malgré son titre ne parle ni d'Église ni d'État, ni même de laïcité, mais seulement d'exercice de culte public banalisé à des activités associatives sans préjuger de leur caractère religieux. Congrégation et culte privé y échappent. L'État rend les églises autonomes, accorde au clergé la liberté en échange de la suppression de son traitement et déclare ne plus s'immiscer dans la nomination des ecclésiastiques qui ne dépendent plus de lui qu'à titre de citoyen. La plupart des articles reprennent ceux de 1795 avec plus de précision dans les domaines financiers et dans un sens plus libéral pour le fonctionnement.
Ainsi, à l'article 1, la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. L'article 2 est le même, mais par amendement de la droite, prévoit de payer des aumôneries en milieu fermé, comme à l'armée, les prisons, les hôpitaux. L'article 5 sur les tenues cléricales est annulé. L'article 3 est remplacé par les articles 4 à 10 et 12 à 17, qui distingue trois types de locaux parmi les anciens établissements publics de culte à répartir sous contrôle préfectoral.
Tout d'abord, les lieux de culte dont l'État, la commune en 1908, reste propriétaire quand ce sont d'anciens biens nationaux, sauf pour la Savoie et Nice, et qui sont laissés en jouissance gratuite aux associations cultuelles en respectant l'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice. Elles seront par contre propriétaires des nouveaux bâtiments à construire.
Immeubles et meubles affectés à une activité particulière mais étrangère au culte, comme dans les hôpitaux ou les orphelinats, seront attribués à des établissements d'utilité publique.
Tant qu'aux autres immeubles et meubles, les presbytères, les séminaires, après inventaire, la propriété est transférée aux associations cultuelles qui les géreront sous le régime de la loi de 1901 avec les charges et obligations qui les grèvent. Même statut donc que celui des congrégations autorisées.
Les articles 18 à 23 définissent le fonctionnement des associations cultuelles en référence aux associations culturelles de 1901. L'article 19 détaille en particulier la gestion financière. La loi ne s'applique pas aux cultes privés qui relèvent, comme les congrégations, de la loi des associations de 1901, d'où des litiges possibles pour certaines sectes.
En relation avec la loi de 1881 sur le droit de réunion, les articles 25 à 44 précisent la police des cultes en l'assouplissant. Plus d'autorisation préalable de réunion et manifestations religieuses extérieures, telles que sonnerie de cloche, procession, sous le contrôle de l'autorité municipale, seule habilitée à apprécier l'ostentation prosélyte.
L'article 28 permet que signes ou emblèmes religieux puissent être apposés, mais exclusivement sur les édifices religieux ou les cimetières. Il est précisé en outre que toutes réunions publiques autres que cultuelles sont interdites dans ces lieux et les articles 34 et 35 fixent des sanctions applicables à des lectures ou discours illégaux, outrageants ou diffamatoire.
Toutes les églises autorisées par l'administration ont donc une plus grande autonomie de fonctionnement que sous le concordat. Et le RF retrouve son fonctionnement synodal et des lieux de culte anciens bien nationaux. La plupart des églises et les temples ou synagogues donnés par le concordat, par exemple, restent entretenus par l'État propriétaire.
Foncièrement républicains, protestants et juifs acceptent et créent des associations cultuelles. Mais avec Pie X, l'Église catholique refuse de négocier avec un État qui ne reconnaît pas son autorité. Amplifiée par l'Action française, les incidents dus aux inventaires confortent ce refus, avec pour conséquence en 1907 la confiscation des évêchés, presbytères ou séminaires non réclamés.
Mais Jean négocie au mieux avec les évêques et Buisson conseille ni capitulation ni persécution. Ce ne sera qu'en 1924 que les accords brillants Séréti avec le Vatican permettront à des associations diocésaines, assimilées aux associations cultuelles par le Conseil d'État, de régulariser la situation. Pourtant, en contradiction avec le statut d'association, puisque l'évêque préside de droit, est validé par le pape et non élu.
Plusieurs articles de la loi seront abrogés ou modifiés. Le Conseil d'État reconnaît en 1925 l'exercice du concordat dans l'Alsace-Moselle et en 1934 on supprime les subventions symboliques aux communes pour les édifices religieux. Les exceptions sont apportées dans les colonies. En 1907, en Algérie, seuls les anciens cultes sont concernés. Les imams reçoivent une indemnité temporaire de fonction et indigène sous droit musulman.
Pétain supprime la laïcité dès septembre 40. En décembre 42, ne sont plus considérées comme subventions les réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques, et l'on facilite les dons et legs. Ainsi, l'Association des fondateurs et protecteurs de l'Institut catholique de Lyon, reconnue d'utilité publique en 1942, et qui l'est toujours. Les constitutions 4e puis 5e République se déclarent indivisibles, laïques, démocratiques et sociales. En 1959, on précise qu'elles respectent toutes les croyances. Pourtant, la loi Barranger de 1951 et surtout les lois Debré de 59, instituent des écoles privées sous contrat, qui, en échange de la rémunération des enseignants par l'État, acceptent le programme du public. Et à partir de 1970, la loi reconnaît la plupart des congrégations.
Les sommes versées aux associations cultuelles déductibles des impôts en 1987, selon l'article 795A, par assimilation à utilité publique. En 1994, le Conseil constitutionnel maintint l'article 69 de la loi Falloux, qui sont des subventions inférieures à 10%. Toutes ces lois scolaires sont reprises et synthétisées dans le Code de l'éducation de 2000 et la fin de l'obligation de faire le catéchisme hors des horaires de l'école publique.
En juillet 1998, puis 2003, ne sont pas considérées comme subventions les sommes versées pour conservation des édifices affectés au culte public, même s'ils sont privés. En 2002, la loi de finances normalisant les comptes des associations 1901 est difficilement applicable pour les cultuels et en contradiction, d'où une multiplication d'associations 1901 connexes, fragilisant le fonctionnement des cultuels. En 2005, Sarkozy nomme la commission Machelon, visant à adapter le droit des cultes sur la question immobilière et le statut juridique des associations cultuelles, rapprochées de celles de 1901. En fait, c'est une remise en question de la loi de 1905, sans suite jusqu'à présent.
En août 2021, la loi sur le séparatisme pour les associations 1905 donne l'autorisation renouvelable tous les 5 ans, contrôle des flux financiers, contrat d'engagement républicain, avec exigences minimales, non définies, de la vie en société, possibilité de louer des immeubles, de façon à ce que ce soit inférieur à 50% des ressources, et subventions pour réparation ou accessibilité.
D'autre part, des conventions internationales vont au-delà de la loi de 1905, d'où des litiges possibles. Ainsi, l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 de l'ONU, « Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé. » par l'enseignement des pratiques, le culte et les rites. Repris par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, elle ne sera ratifiée en France qu'en 1973. Et en 1997, l'Union européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations religieuses dans les États membres.
Envenimée par l'islamophobie, ces évolutions encouragent certains à faire modifier la loi. Les uns pour être reconnus et subventionnés par l'État, comme les églises sectaires plus ou moins intégristes, tant chrétiennes que musulmanes ou autres. Les autres pour influencer davantage la vie sociale, à l'exemple d'autres pays européens.
Les tenants d'une laïcité anticléricale radicalisent leur position avec la loi de 2004 sur les signes ou tenues ostentatoires dans l'espace public. Pour eux, la laïcité devient une religion d'État républicaine, république une et indivisible, réplique moderne de « une foi, une loi, un roi ». Pourtant, si la loi de 1905 ne doit pas être sacralisée, elle reste un compromis fragile, mais indispensable. Ancien président de SOS Racisme, Malek Bouti, remarque que la laïcité est aujourd'hui la zone d'affrontement intellectuel entre les démocrates, qui raisonnent en termes de partage et d'équilibre des droits, la loi morale correspond au respect du pluralisme et de la tolérance, et puis d'autre part les républicains, qui pensent que la République a une vocation émancipatrice universelle.
La charte de la Ligue de l'enseignement de 2014 tente une synthèse. La laïcité doit affirmer l'idéal commun susceptible de rassembler les différentes familles philosophiques ou religieuses vivant sur le territoire par l'approfondissement des règles du vivre ensemble au-delà des diversités culturelles et des convictions individuelles. Elle doit favoriser l'engagement des citoyens dans nos sociétés inégalitaires et plurielles pour une réelle reconnaissance de l'égalité en droit et en dignité de tous les membres de notre commune humanité.
Cette quête d'un consensus acceptable pour tous passe par l'éducation et un enseignement sérieux à la citoyenneté, mais en se méfiant des clichés de la mythologie républicaine, tels que Journée de la laïcité, Droits de l'enfant, Monument aux morts, Marseillaise, 14 juillet, qui peuvent être vus comme simple propagande de la République bourgeoise. Généré par le néolibéralisme capitalisme, ce que l'on nomme laïcisation n'est souvent que sécularisation. René Raymond note en 1967 « La société politique, reconnaissant son incompétence à définir une croyance officielle, renonçant à l'imposer, admet le pluralisme des convictions et fonde la concorde des citoyens sur la neutralité de l'État et la conviviance des familles spirituelles. De fait, la laïcité est ce qui permet de gérer le pluralisme de toute société humaine. »
Dans les années 80, la Fédération protestante préconisait avec Paul Ricoeur une laïcité ouverte. Or, le mot laïcité doit-il être affublé d'épithètes telles que ouverte, plurielle, sectaire, négative, saine, nouvelle, apaisée, des adjectifs qui ont pour effet, quand ce n'est pas l'objectif, d'affadir le concept, de vider la laïcité de sa substance, alors qu'elle porte en elle-même la force et la générosité qui permettent, ou en tout cas qui ont permis depuis un siècle, de vivre dans la paix civile. Un long apprentissage de la laïcité au travers de tribulations douloureuses. Plusieurs protestants y jouèrent un rôle important, eux qui, par nature, se méfient de tout dogmatisme, d'où leur pluralité d'expression.
Nous gardons de conclure, laissons le dernier mot à Jean Bobéreau. Tant que les Français ne comprendront pas qu'entre uniformité et communautarisme, il existe une possibilité de déplacement vers le pluralisme, l'islam fera problème et la France sera en danger d'intolérance.